matinale de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous Sébastien Guyot.
Bonjour Marlène, bonjour à toutes et à tous. À la une de ce lundi de Pâques, un mouvement islamiste local derrière les attentats du Sri Lanka qui ont fait 290 morts et 500 blessés hier. C'est ce qu'affirme en tout cas le gouvernement. Dylan Madhavan, spécialiste de la région, sera avec nous dans un instant. Nouvelle inculpation pour Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault et Nissan, et cette fois accusé de détournement de fonds et d'enrichissement personnel. Êtes-vous prêt à travailler plus? Il faut peut-être s'y préparer, car c'est l'une des pistes envisagées par Emmanuel Macron pour compenser une baisse des impôts. Il devrait l'annoncer jeudi. Dans ce journal également, un humoriste et comédien à la tête de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, peut-il parvenir à faire la paix avec la Russie, les séparatistes russes? Nous verrons cela avec Jean-Sébastien Soldaini. Une page sport également dans ce journal, avec la belle histoire de l'équipe de France féminine en finale de la Fed Cup. Garcia et Mladenovic se détestaient, et bien elles ont tout de même réussi à gagner ensemble. La météo, Elena Morna, temps agité dans le sud-est.
Oui, avec des vents forts. Le sud de la Corse est d'ailleurs en vigilance avec des rafales qui peuvent atteindre 140 km/h sur les caps les plus exposés. Vent et pluie sur l'ensemble du bassin méditerranéen, orageux sur l'ouest et toujours bien estival au nord de la Seine et sur le Grand Est.
Merci Elena, on vous retrouve pour une météo complète juste avant 13h. Europe 1. C'est un bilan effroyable. 290 morts, 500 blessés au Sri Lanka après les attentats suicides qui ont visé hier des églises et des hôtels de luxe pour le dimanche de Pâques. 24 heures après, Jihan Bergawi, le gouvernement affirme qu'un mouvement islamiste local est à l'origine de ces attaques meurtrières.
Oui, c'est la piste avancée par le porte-parole du gouvernement. Selon lui, le NTJ, ce mouvement islamiste local, serait bien derrière cette vague d'attentats qui, rappelons-le, n'a pas encore été revendiquée. Alors, on a peu d'éléments sur ce mouvement. Il s'est fait connaître l'année dernière en vandalisant des statues bouddhiques. Mais depuis 10 jours, il était dans le radar des autorités. Le NTJ faisait l'objet d'une alerte suspectée de préparer des attaques contre des églises et contre l'ambassade d'Inde à Colombo. Les autorités enquêtent maintenant sur d'éventuels liens de l'organisation avec des groupes étrangers. L'enquête se poursuit. On vient d'apprendre que 87 détonateurs de bombes viennent d'être découverts dans une station de bus de Colombo. Et dans la capitale, l'ambiance est particulière, en témoigne Olivier, un guide français qui vit là-bas.
À Colombo aujourd'hui, ça se passe bien, c'est un peu une ville morte parce que le temps de l'enquête, effectivement, il y a beaucoup de quartiers qui sont fermés. Les écoles, les crèches sont toutes fermées pour 2 jours. Quelques voitures circulent, quelques magasins sont quand même ouverts, c'est quand même différent d'hier soir. Mais on a une ville qui est quand même extrêmement calme.
Pour éviter la propagation de fausses informations, le gouvernement bloque depuis hier l'ensemble des réseaux sociaux. Résultat, les communications avec l'île sont extrêmement difficiles. Nous avons réussi à joindre Yeb, un touriste français actuellement dans le sud de l'île. Il a téléchargé une application qui permet de contourner ces restrictions.
C'est difficile de comprendre, c'est difficile d'avoir les vraies informations. Il y a des gens qui disent qu'il y a des fugitifs qui sont encore en cavale. On ne sait pas trop quoi penser. On essaie de ne pas prendre de risques, de rester à l'hôtel, d'éviter les déplacements. Et on espère vraiment que d'ici 48 heures, la situation se calmera et on pourra aller à l'aéroport.
Alors le gouvernement vient de déclarer une deuxième nuit de couvre-feu sur l'ensemble de l'île. Et ce soir, à partir de minuit, heure locale, le Sri Lanka décrète l'état d'urgence au nom de la sécurité publique.
Merci Jihan Bergawi pour toutes ces explications. Alors pour essayer de comprendre pourquoi la communauté chrétienne a été visée hier, nous sommes en ligne avec un spécialiste du Sri Lanka. Bonjour Dylan Madhavan.
Bonjour.
Vous êtes géographe, chercheur associé au Centre d'études sur l'Inde et l'Asie du Sud à Paris et à Montréal. Alors donc, le gouvernement sri-lankais l'affirme, un mouvement islamiste local serait derrière les attentats de Pâques. Est-ce que ça vous paraît crédible tout d'abord?
Pour moi, c'est vrai qu'on attend encore quand même d'avoir plus d'informations. C'est un petit mouvement qui a été signalé assez récemment finalement, par rapport à d'éventuelles vandalisations de temples bouddhistes. Et il y avait déjà d'autres personnes qui doutaient justement de la véracité de ce mouvement. Mais
qu'est-ce qu'on sait de ce groupuscule, le NTJ, exactement?
Justement, on n'en sait pas grand-chose, c'est ça le problème. Donc on est très, très étonnés, et surtout ce qui est étonnant, c'est qu'un groupe qui sera assez récent et qui serait qu'un petit groupuscule puisse quand même réaliser un attentat de cette ampleur.
D'une telle ampleur.
Il y a une ville organisée, donc ça veut dire qu'ils ont quand même des soutiens qui doivent être très importants, donc d'où aussi la volonté, d'après ce que j'ai compris, des autorités sri lankaises de vérifier. Pour le moment, il n'y a que des personnes qui ont été arrêtées, sont toutes apparemment sri lankaises.
Alors, on va y revenir dans un instant, mais d'abord, Dylan Madhavan, le ministre de la Santé sri lankais lui-même le dit ce matin, nous avons du mal à voir comment une petite organisation comme le NTJ peut faire tout cela. Ça veut dire qu'il y a eu forcément une aide extérieure, selon vous ?
Bah ça justement, on n'en sait rien. Donc pour le moment, on est très surpris. Et si aide extérieure de qui et pourquoi attaquer finalement les chrétiens par exemple parce que justement dans ce qui est exposé dans la présentation de la situation par vos confrères, il y avait éventuellement des représailles par rapport aux incidents entre l'Inde et le Pakistan, mais dans ce cas-là, ce serait plutôt les hindous qui auraient dû être la cible. Donc pourquoi les chrétiens ? Donc ça reste encore très, très trouble, finalement, les logiques. Et surtout, ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu de revendication. Ça fait quand même déjà plus de 24 heures. A priori, leur stratégie et leur attentat ont réussi. Donc,
la communauté chrétienne représente 7% de la population au Sri Lanka, qui est à majorité bouddhiste, hein, 70% de la population, il me semble. Quels sont leurs rapports au quotidien, chrétiens et bouddhistes ?
Généralement, les relations interreligieuses sont plutôt saines. Il y a vraiment un bon vivre ensemble, un respect finalement de la religion de l'autre. Alors le seul point de tension peut être justement lorsqu'il y a des tentatives de prosélytisme pour convertir. Donc parfois vous avez des chrétiens ou des musulmans qui peuvent être accusés par certains militants bouddhistes d'être trop prosélytistes. Ou lorsque certains signes religieux ou bâtiments, par exemple, sont trop présents et, de façon ostentatoire, donc l'appel à la prière des musulmans, par exemple, posait problème. Mais là, dans le cas des chrétiens, finalement, et surtout des églises qui ont été attaquées, ce sont des églises qui font partie, j'ai presque envie de dire, surtout celle de Côte Cicadet, la première qui a été attaquée, du patrimoine sri lankais, en fait. Il est connu de tous. C'est un symbole aussi du christianisme et qui est apprécié. Et généralement, les bouddhistes et les hindous et les catholiques ont un profond respect pour leurs différentes religions.
Et vivent en harmonie jusqu'à présent. Ils vivaient en harmonie jusqu'à présent au Sri Lanka. Merci.
Oui, il y a aussi des rites et des cultures qui sont partagées, en fait. Donc, du coup, on n'est pas dans le cas de religions qui sont très opposées, finalement.
Merci, Dylan Madhavan, pour votre éclairage sur la situation au Sri Lanka, où je vous rappelle qu'il y a eu 290 morts et 500 blessés après les attaques meurtrières hier contre des églises chrétiennes et contre des hôtels de luxe.
Europe 1, il est 12h37. À la une de l'actualité également, Sébastien, Carlos Ghosn, de nouveau inculpé au Japon.
L'ancien patron de Renault-Nissan accusé de détournement de fonds, de nouveau en prison, on le sait depuis le 4 avril dernier. Carlos Ghosn est donc inculpé pour une quatrième fois. Anne-Laure Jumet, cette fois-ci, les accusations sont encore plus graves que les précédentes.
Oui, parce qu'après l'accusation d'avoir minimisé ses revenus, d'avoir fait couvrir par Nissan des pertes sur investissement, voilà qu'on parle d'enrichissement personnel. Ce qui vaut à Carlos Ghosn cette quatrième mise en examen, ce sont des soupçons de détournement de fonds. 5 millions de dollars auraient été prélevés sur des sommes versées par Nissan à l'un de ses distributeurs à Oman, au Moyen-Orient. Une somme qui aurait notamment servi à acheter un yacht, souvent utilisé par sa famille et ses proches. La transaction aurait d'ailleurs été effectuée par une compagnie dirigée par l'épouse de Carlos Ghosn. Et puis cet argent aurait aussi atterri dans un fonds contrôlé cette fois par Anthony Ghosn, le fils de l'ancien patron de Renault-Nissan. On rappelle que Renault avait déjà signalé au parquet de Nanterre en début de mois des flux financiers suspects vers Oman. Dans un communiqué publié ce matin, Nissan réclame des sanctions sévères et appropriées face à une faute qu'il qualifie de totalement inacceptable. Pour les procureurs japonais, il y a suffisamment d'éléments pour prouver la culpabilité de Carlos Ghosn. De leur côté, les avocats japonais de l'ancien PDG de Renault-Nissan ont réclamé la libération sous caution de leur client dans l'attente de son procès qui n'est pas prévu avant plusieurs mois.
Merci Anne-Laure Jumet. Alors justement, Anne-Laure, vous avez joint il y a quelques instants l'un de ses avocats en France, Jean-Yves Le Borgne, ne parle pas de théorie du complot, mais il attend des preuves de l'accusation.
Je crois crois qu'il faut être extrêmement prudent sur les raisons qui sont celles de la poursuite et qui est effectuée au Japon. Nous n'en savons rien. Il y a des fuites, il y a des bruits, il n'y a pas de caractère public aux éléments de l'accusation. On sait déjà depuis longtemps qu'il y a eu des commissions qui ont été versées à des distributeurs Nissan, et on parle de rétro-commission, pour faire simple, qui aurait bénéficié à Carlos Ghosn. Mais la preuve, à ma connaissance, puisque ce dossier n'est pas partagé, n'est pas public, n'est pas connu, à ma connaissance, la preuve de ce profit personnel est très hypothétique.
Maître Jean-Yves Le Borgne, un des avocats français de Carlos Ghosn. Cette question, à présent, êtes-vous prêt à travailler davantage. C'est l'une des pistes envisagées par Emmanuel Macron pour financer la baisse des impôts qu'il devrait annoncer jeudi. Une majorité de Français y est hostile, 54% selon un sondage IFOP paru hier. Olivier Samain, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Alors dans le corps du chef de l'État, différentes mesures sont déjà très sérieusement creusées avec une préférence, l'instauration d'une deuxième journée de solidarité.
Oui, supprimer un deuxième jour de repos dans l'année, un jour férié par exemple, l'hypothèse est clairement mise sur la table par la porte-parole des députés En Marche, Aurore Berger. En 2004, souvenez-vous, Jean-Pierre Raffarin avait ouvert la voie avec la suppression du lundi de Pentecôte pour financer l'aide aux personnes âgées dépendantes. L'idée serait de faire la même chose, là encore, pour financer la dépendance ou pour financer la baisse de l'impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes. Alors comment l'idée est-elle accueillie? Si l'on en juge par les Français que nous avons interrogés hier, pas si mal.
Je trouve que c'est intelligent dans le fait que les gens vont moins le voir. Vous avez un deuxième jour qui va être retiré. Sincèrement, ça ne va pas vraiment avoir de l'incidence. Si aujourd'hui on dit, voilà, au contraire de ce jour-là, il faut travailler 3 ans de plus, là les gens sont moins d'accord.
Je trouve ça intelligent dans le sens où ça fait rentrer des recettes, mais il ne faudra pas que ce soit appliqué à toute la population. Il faudra que ce soit appliqué, par exemple, pour les entreprises qui font des gros bénéfices à l'année, mais pas pour tous les travailleurs qui ont des revenus parfois très justes pour boucler les fins de mois.
Disons que de relever l'âge de la retraite me paraît beaucoup plus honnête pour les prochaines générations, parce que la deuxième journée de solidarité est ridicule par rapport à l'enjeu.
Alors, relever l'âge de la retraite, c'est effectivement l'autre idée, mais on a vu la polémique ces dernières semaines et le risque de voir l'homme de la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, jeter l'éponge. La troisième piste, qui consiste à revenir sur les 35 heures, semble quant à elle écartée.
Merci Olivier Samain, et on devrait en savoir un peu plus avec le chef de l'État et ses annonces jeudi prochain.
Il est 12h41, Europe 1.
Une pause, vous restez avec nous et dans un instant, les gilets jaunes, la polémique autour de l'appel au suicide des policiers, mais aussi la garde à vue controversée d'un journaliste engagé.
Il est 12h43, la suite du journal sur Europe 1, Sébastien Guyot.
Cela fait bientôt 48 heures maintenant que le journaliste Gaspard Glantz est en garde à vue. Le fondateur du site Taranis News avait été arrêté place de la République à Paris samedi lors de la manifestation des Gilets jaunes après avoir fait un doigt d'honneur à un policier. Ce matin, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées devant le commissariat du 12e arrondissement de Paris pour exiger sa libération. Et son avocat, maître Raphaël Kempf, dénonce une mesure excessive.
La garde à vue de Gaspard Glantz est manifestement disproportionnée. Je la considère en outre comme étant illégale et comme une atteinte à la liberté de la presse à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Cette mesure n'était pas absolument indispensable. Si on voulait entendre Gaspard Glantz sur un doigt d'honneur qu'il aurait fait à un policier, on pouvait le convoquer à une date ultérieure et on n'avait pas besoin de l'enfermer dans une cellule crasseuse pendant quasiment 48 heures. Si la justice continue à s'acharner et le convoque devant un magistrat, nous serons présents, mais je pense que ça peut se faire à une échéance de plusieurs mois. Il n'y a pas besoin que ce soit aujourd'hui. J'espère que cette mesure ne sera pas mise en œuvre par le parquet, sinon elle signerait une fois de plus le harcèlement du procureur de la République à l'égard de ce journaliste indépendant qu'est Gaspard Glantz.
Maître Raphaël Kempf avec Guillaume Biais. De leur côté, plusieurs figures des Gilets jaunes ont publié un communiqué pour dénoncer avec vigueur, disent-ils, les propos de certains manifestants qui invitaient les policiers à se suicider. Mais dans le même temps, ils condamnent les violences policières, les manœuvres politiciennes et médiatiques destinées, selon eux, à diaboliser les Gilets jaunes. Parmi les signataires, Priscilla Ludowski, Éric Drouet ou encore Jérôme Rodriguez. À Nantes, 4 personnes ont été blessées par balle la nuit dernière dans le quartier Bellevue. 2 individus individus sont dans un état grave. Des hommes ont ouvert le feu depuis une voiture. Une enquête a été ouverte. Et puis deux pompiers grièvement blessés ce matin à Paris. Ils intervenaient sur un accident de circulation sur le périphérique entre Porte de Passy et Porte de la Muette. Ils ont été percutés par une voiture. Leur pronostic vital ne semble pas engagé d'après les premières informations.
Europe 1, 12h45, Sébastien Guillot.
Quand la fiction devient réalité, un comédien humoriste qui accède au pouvoir suprême, ça se passe en Ukraine. C'était jusque-là dans une série. Volodymyr Zelensky jouait le rôle phare. Et depuis hier soir, il est officiellement président de la République d'Ukraine. Un trublion donc de 41 ans qui a obtenu plus de 73% des voix face au président sortant Porochenko. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
En réalité, l'Ukraine est un pays en guerre avec les séparatistes pro-russes depuis 5 ans maintenant. 13 000 morts depuis l'annexion de la Crimée. Est-ce que Volodymyr Zelensky est en capacité de relancer le processus de paix ?
Eh bien, à première vue, dit comme ça, un comique inexpérimenté qui s'installe au pouvoir à Kiev, ça peut paraître léger pour régler ce conflit. En tout cas, il semble afficher une certaine fermeté. Fermeté, par exemple, sur une loi d'amnistie. Il ne veut pas que ceux qui ont combattu auprès des séparatistes échappent à la justice. Mais est-ce qu'il tiendra le coup ? Est-ce qu'il affichera la même fermeté face à Vladimir Poutine ? Ça reste à prouver. Alexandra Goujon, spécialiste de l'Ukraine à l'Université de Bourgogne, rappelle que Volodymyr Zelensky est avant tout un communicant et qu'à ce titre, il a un plan.
Une idée qu'il a relancée à plusieurs reprises en disant pour récupérer ces territoires, il va falloir qu'on ait une autre politique de la communication, il va falloir que les journalistes expliquent. Et donc il veut se lancer dans une opération, j'allais dire, d'information dans ces territoires pour pouvoir essayer de convaincre la population que le chemin de l'Ukraine, notamment le chemin vers l'Europe, vers plus de démocratie, est le bon chemin.
Son avantage est qu'au cours des 5 dernières années, l'armée ukrainienne s'est considérablement renforcée. C'est un atout pour négocier, surtout sur le terrain de la libération des prisonniers. C'est un dossier essentiel pour l'opinion en Ukraine. Il faut aussi noter que son élection a été bien accueillie par Moscou. Le premier ministre russe a estimé qu'il y avait une chance de voir les relations s'améliorer. Mais lorsqu'on connaît la ruse qui caractérise le Kremlin, pas sûr que ce soit bon signe pour Zelensky.
Jean-Sébastien Soldaini et de nombreuses réactions à l'international du président français Emmanuel Macron au patron de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Les principaux responsables de l'UE ont félicité Volodymyr Zelensky pour son élection.
Il est 12h47, la suite du journal sur Europe 1, Sébastien Guillot.
Attention si vous êtes en Bretagne, alerte à la pollution aux particules fines. 3 départements concernés, le Finistère, les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine. L'alerte a été levée hier soir à minuit pour la Normandie. Alors comment expliquer ce phénomène ? Sébastien Lemeur, responsable de la prévision de la qualité de l'air à Atmo Normandie, nous explique.
Il y a une grosse part de ces particules qui est importée des pays voisins et des régions voisines du nord-est. C'est un phénomène de pollution qui est assez récurrent sur ces mois de l'année, mars-avril. Habituellement, à cette période de l'année, ce qui prédomine, c'est plutôt les épandages agricoles. C'est un phénomène récurrent qui s'intensifie en fait en fonction des situations météorologiques particulières comme celles qu'on a en ce moment, c'est-à-dire des situations anticycloniques avec des vents de nord-est et puis des températures qui restent un petit peu fraîches la nuit mais qui montent dans la journée, sachant qu'il y a quand même toutes les sources liées au trafic et à l'industrie qui restent encore présentes. Les conditions météorologiques changent un petit peu demain et donc ça devrait baisser progressivement.
Sébastien Lemeur, responsable de la prévision de la qualité de l'air à Atmo Normandie avec Claudia Bertram. Et puis vigilance également en Corse du Sud à cause des vents violents cette fois. Nous y reviendrons en détail avec Elena Morna juste avant 13h. C'est aujourd'hui la journée de la Terre, l'occasion de vous parler d'un concept innovant, une sorte de garage de l'espace. Imaginez-vous, des chercheurs travaillent actuellement à Toulouse sur ce concept. Objectif, dépolluer l'espace et recycler les satellites vieillissants. Lors d'Autriche.
Ces ingénieurs sont en train de créer une petite station qui serait capable dans l'espace de réparer des satellites en panne pour prolonger leur durée de vie et réduire le nombre de lancements de nouveaux satellites. Parce qu'aujourd'hui, à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, se trouvent 4000 satellites qui ne fonctionnent plus, explique Stéphanie Lizy-Détré, chercheure à l'ISAE Supaéro. Cela crée une pollution et cela peut engendrer des collisions entre satellites, une multiplication des débris. Cette station sera une sorte d'usine de recyclage de l'espace.
On est en train de travailler sur est-ce que ce serait bien que cette station soit habiter comme l'ISS en permanence avec des astronautes qui feraient justement la maintenance des satellites, ou au contraire, il faut que ce soit une station qui soit complètement automatisée.
L'objectif de ces chercheurs, c'est désormais de pouvoir faire une démonstration dans l'espace de leur station. Pour limiter le nombre de satellites, disent ces scientifiques, il faudrait aussi pouvoir reconfigurer un même satellite pour qu'une fois sa mission terminée, au bout de quelques années, il puisse avoir une autre fonction.
Laure d'Autriche.
Il est 12h50.
Europe 1. Une nouvelle pause et dans un instant, la France en finale de la Fed Cup. C'est du tennis, bien sûr. C'est un exploit, d'autant que les deux joueuses qui ont donné le point de la victoire refusaient même de se parler il y a encore très peu de temps.
Europe 1. 12h52, le journal de la mi-journée se poursuit avec le sport, Sébastien Guyot.
Ah oui, quelle journée, quel match, quel suspense. Hier, l'équipe de France féminine de tennis en finale de la Fed Cup grâce à Caroline Garcia et Kristina Mladenovic. Victoire en 3-7 contre les Roumaines. Hier soir, il était 22h. Et ce qui est encore plus beau, Corinne Boulou, c'est que ces deux-là ne s'apprécient guère, c'est un doux euphémisme. Les deux sœurs ennemies du tennis français ont réussi à s'unir, comme quoi, Corinne, l'union fait la force.
Oui, et dire qu'il y a quelques mois encore, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia, victorieuses en double à Roland-Garros en 2016, ne se parlaient plus. C'est le nouveau capitaine de Fed Cup, Julien Beneteau, qui a réussi à convaincre Garcia de revenir dans l'équipe après 2 ans d'absence et de brouille. Le reste de la troupe a suivi, même si Kristina Mladenovic rappelle qu'elle a tenu la baraque pendant cette absence. Alors évidemment, les voir associées sur le court, c'était logique, mais c'était aussi l'attraction du moment, comme le reconnaît Pauline Parmentier, leur coéquipière.
Ça me fait quand même quelque chose de les revoir ensemble sur le court, parce qu'on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais c'est vrai que si on nous avait dit un jour qu'on regagnerait un double décisif tout ensemble, on a vécu des trucs forts jusqu'à Strasbourg, et après ça a été un peu plus compliqué, et là de revivre ça tout ensemble, c'est juste génial.
Et la numéro 1 française, Caroline Garcia, qui a montré toute l'étendue de son talent en bataillant 5h30 sur le court, en simple puis en double, a pris du plaisir à rejouer avec son ancienne partenaire.
On a eu des moments incroyables ensemble et aujourd'hui ça en fait partie. Et on a fait preuve de courage et de détermination, on a joué l'une pour l'autre et on a gagné toutes les deux ensemble sur le terrain et avec toute l'équipe au bord.
De quoi bien aborder la saison sur terre battue avant de penser à cette finale en novembre en Australie.
Corinne Boulou, le football, le PSG a enfin décroché son titre de champion de France. Après 3 tentatives avortées, les Parisiens ont été sacrés hier, avant même de jouer d'ailleurs, puisque Lille avait fait match nul à Toulouse. Le PSG, avec un triplé de Mbappé, a fait honneur à ce 8e titre de champion. Sauf que, Julien Froment, on était loin d'une ambiance de fête hier soir au Parc des Princes.
Ah oui, là, ce que vous entendez, écoutez bien, eh ben, c'est l'ambiance du Parc des Princes.
Folle.
Ouais, voilà, un bruit de folle fond ambiance. Avec quelques clameurs au moment des buts, et puis c'est tout. Les supporters, ou plutôt les spectateurs, ont donné l'impression d'être blasés, d'être à nouveau sacré champion de France, ce qui a un petit peu surpris quand même l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel.
Dans le stade aujourd'hui, ce n'était pas une ambiance « tu es champion pendant les derniers matchs et la dernière minute ». On a l'impression que c'est normal, mais nous savons que ce n'est pas normal. Être champion de France très très tôt, c'est une performance excellente.
Alors, plusieurs raisons pour expliquer le manque de ferveur. Les ultras, tout d'abord, les supporters qui mettent l'ambiance dans le stade étaient absents. La tribune Auteuil a été fermée par la Ligue pour usage de fumigène lors du Paris Saint-Germain OM. Et puis, les vraies festivités, c'est la tradition, auront lieu le 18 mai prochain, l'occasion du dernier match à domicile de la saison contre Dijon. Et là, il y aura un show à l'américaine, jeux pyrotechniques, podium et présentation du ou des trophées si Paris remporte la Coupe de France. Et
oui, parce qu'il y a cette fin de saison qui a encore de l'intérêt, Julien, puisque le PSG à la Coupe de France samedi soir, mais en plus des records à battre.
Oui, en effet, donc la Coupe de France face à Rennes, ça sera samedi prochain à suivre sur Europe 1. Et puis, il y a des records, le nombre de victoires sur une saison qui est de 30, détenu par Paris et Monaco. Le PSG en est à 27, donc avec encore 4 matchs à jouer, c'est tout à fait possible pour les Parisiens. Puis il y a aussi le record de points, là aussi, Paris qui les détient avec 96 unités. En 400 fautes, il pourrait obtenir 99 points du jamais vu dans l'histoire de la Ligue 1. Enfin, un mot de Kylian Mbappé, hein, 30 buts. Il peut encore devenir le meilleur buteur français du championnat. Il faudra qu'il atteigne la barre des 36 buts, ce qui semble largement dans les cordes de l'attaquant parisien.
Du phénomène Mbappé. Merci Julien Froment. Pour finir ce journal, direction Deauville. Deauville, ses planches, sa plage, son festival de musique classique aussi, puisque depuis samedi soir et jusqu'au 4 mai prochain, de jeunes musiciens participent à la 23e édition du Festival de Pâques. La particularité de cet événement musical, c'est d'accueillir des professionnels en début de carrière, Thierry Geffrotin.
Tout jeune et déjà professionnel, avec quelques rituels avant le concert. Manger pour le ténor Mathis Lagier.
Ma banane avant le concert, ça fait toujours du bien.
Se concentrer pour la soprano Maria Miel Lamaga.
Excusez-nous, il faut vraiment que... C'est qu'il faut qu'on se concentre un peu avant le concert.
C'est un ensemble vocal de quatre jeunes chanteurs, l'Archipel, qui a ouvert samedi soir la 23e édition du Festival de Pâques. Un festival dont la raison d'être est d'accueillir de tout jeunes professionnels de la musique classique et même des étudiants en fin de formation. Et parmi les artistes invités cette année, il y a le violoncelliste Victor-Julien Laferrière, un habitué de longue date.
J'ai 28 ans et je suis venu pour la première fois en 2007, j'avais 16 ans. Je me souviens de toute cette nouveauté, de tout ce stress et aussi après évidemment de tout le plaisir que j'ai appris et qu'on pouvait avoir aussi dans des expériences comme celle-ci.
Merci Thierry Geffretin. Le festival à Deauville, c'est donc jusqu'au 4 mai prochain. Profitez-en.
12h57, Sébastien, dans un instant sur Europe 1, c'est la météo. À tout de suite. Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Gros plan sur le monde de la traduction et les Français innovent pour nous aider à parler d'autres langues. À tout de suite.